Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Bienvenue à la Conspiration des planches, l'émission critique des arts de la scène de Radio Campus sur 92.1 FM Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles, comme chaque mercredi 19h-19h30 et en reprise le jeudi dès 13h30. La petite demi-heure pour épingler les créations et les reprises, en tout cas le spectacle vivant qui a lieu dans tout Bruxelles. À côté de moi, j'ai Nicolas La Technique. Bonjour Nicolas.
Salut.
Bonsoir. Et Sophie, bonjour.
Bonjour.
Et Catherine au bout du fil. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Alors cette semaine, il y a des créations très, très dures. À quelques jours du printemps, les scènes n'y vont pas de main morte. On ira du côté du projet HLA de Nicolas Fretel, une tragédie techno mise en scène par Georges Ligny au Théâtre de Poche, inspiré d'une histoire vraie. On ira aussi voir du côté des prisons avec Un homme debout, encore une histoire vraie, un témoignage de Jean-Marc Mailly au Théâtre National. On ira du côté des années 80, des artistes un peu écorchés au bord du gouffre, mis en scène par une performeuse multimédia Lucille Calmel au théâtre Les Tanneurs. On parlera un petit bout de la nouvelle création de Fabre, Prométhée, la tragédie remise à la sauce du jour au Kai Theater. Et on ira faire un tour du côté de la Monnaie avec un chouette opéra de Mozart, La Finta Giardiniera, légèreté, mais pas tant que ça, parce que c'est l'amour qui va dans tous les sens, éternel. Qui aime qui cherche qui, à quelques jours du printemps, on ira faire un tour du côté de la Monnaie. Je me retourne directement vers Nicolas. Nicolas qui est parti voir pour nous cette fameuse tragédie techno, projet HLA au Théâtre de Poche.
Un projet hautement personnel de son auteur Nicolas Fretel, puisque c'est grandement inspiré, ou en tout cas issu de son vécu. Alors c'est quoi le projet HLA ? On va d'abord parler du spectacle. C'est un texte qui met en scène trois personnes, une famille, un père, une mère et son fils. Et on se retrouve directement dans la pièce un an après la mort du père. Je n'en dis pas trop là pour le moment, on le sait assez vite que ce père est parti. Et on sent vraiment une tension dans cette famille, une tension assurée entre guillemets par l'alcoolisme ambiant qui touche vraiment les trois membres de cette famille. Et si la mort du père, qu'on apprend violent et alcoolique également, violent envers la mère et envers le fils, n'a rien résolu, et n'a rien résolu en tout cas dans les rapports aussi entre la mère et le fils, puisque on pourrait sentir que ces deux personnes se rapprochent suite à ce deuil et peut-être cette libération, puisque on apprend au fur et à mesure de la pièce que ce père avait vraiment une chapeauté vraiment et foutait le mouron à tout le monde quoi, dans la famille. Alors, comment est construit ce spectacle ? Ce spectacle est un ensemble de scènes, de tableaux en tout cas, qui raconte un peu comment ces personnages vivent l'après-mort du père. Et c'est construit, comme je le disais juste avant, hors antenne, c'est construit comme une chanson avec un refrain. Et ce refrain, c'est la scène fatidique du soir de la possible mort du père et des circonstances. Je n'en dis pas plus parce que c'est vraiment le suspense jusqu'au bout de la pièce de savoir comment il meurt. Une scène où c'est un conflit entre le père et le fils et le père demande à son fils de terminer son assiette. Lui qui ne fait rien pour gagner sa vie et que c'est son père qui a gagné sa vie pour pouvoir nourrir sa famille.
Un classique des parents tortionnaires.
Voilà, alors...
Termine ton assiette.
Et file dans ta chambre, mais ici ça prend une toute autre ampleur avec cet alcoolisme toujours ambiant évidemment et qui touche vraiment les trois membres de la famille et voilà comment c'est présenté, comment Georges Ligny a mis ça en scène.
Et est-ce que c'est glauque?
Ah oui, alors là, justement, j'allais y venir. C'est glauque, l'ambiance est très lourde et on sent directement que ça va péter, quoi. Hein, je veux dire. Et c'est accentué, évidemment, par ce concept de tragédie techno qui, en fait, le spectacle est habillé par un DJ qu'on ne voit pas, qui est hors scène, par sa musique et qui habille en musique. Et à mon avis, il doit aussi avoir une petite influence sur le montage visuel autour, puisque la scène est fermée, délimitée par 3 écrans vidéo, parce que les 3 acteurs ne sortiront jamais de scène et seront toujours présents pour jouer les différents...
Comme un aquarium ou un cloaque.
Ah, un aquarium, voilà, c'est un élément important. C'est le seul cadeau que le père a fait à son fils et que le fils a gardé. Je ne sais pas si tu te rappelles.
Avec un poisson mort qui traîne là depuis un an.
Voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, on aime répandre les cendres du père dans l'aquarium pour les nourrir un peu. Voilà, pour vous donner un peu l'ambiance de ceci. Alors, on retrouve sur scène Philippe Jezet dans le rôle du père, Valérie Lemaître, la mère, et Corentin Lobé, le fils. Une assez belle interprétation, il faut le dire, de ces comédiens. Moi, j'ai beaucoup apprécié Valérie Lemaître en mère vraiment désabusée, qui aussi cache bien son jeu. Hein. On l'apprend au fur et à mesure de la pièce. C'est une mère déprimée, dépressive et qui arrive à foutre le mouron à tout le monde autour d'elle également.
Mais tous, hein, le fils est pris un peu en otage d'un couple, hein, parce que la mère dit il y a des scènes très dures entre le père et la mère. Quand la mère dit oui, mais on vieillit, le mari lui répond mais on vieillit pas, on pourrit. Chacun reproche à l'autre de ce qui n'est pas devenu. Enfin, le père reproche à cette famille de lui avoir fait gâcher sa vie, la mère d'avoir tout donné. On est dans des schémas, mais sauf que là, c'est poussé avec l'alcool et le carmon.
Parce que de quoi parle cette pièce? Le projet HLA. HLA, ça veut dire Human Leukocyte Antigène. Donc, c'est les gènes, évidemment, hein, qui est antigène, ben, peut-être aller à l'encontre, parce que c'est un spectacle sur la transmission. L'alcoolisme, on voit dans ce spectacle, se transmet de père en fils, et les schémas affectifs se reproduisent également, on l'apprend au fur et à mesure. Alors, l'auteur Nicolas Fretel a créé cela dans un contexte tout à fait particulier. Il est passé également, apparemment, lui, par un problème d'alcoolisme qui lui a mis les reins en l'air complètement. Et il a dû attendre quelques années avant d'avoir une greffe de rein pour pouvoir survivre à ce mal. Et cette attente a vraiment suivi, apparemment, toute l'écriture et toute la construction de la première fois que le spectacle a été créé à Paris, je crois.
En tout cas, ici, Georges Ligny s'en sort bien.
S'en sort très bien. Alors, encore une fois, c'est un jeu avec des tripes. Hein. On sent qu'on est fort pris. Certains, parfois, pourraient peut-être reprocher une mise en scène statique. Je crois que, Catherine, tu avais ce petit commentaire-là à faire. On en a parlé récemment.
Statique, je ne sais pas, mais peut-être un peu classique, comme tu le disais aussi, une scène. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vrai, c'est l'atmosphère visuelle et sonore de ce huis clos qui en devient très oppressant.
Oui, parce que pour une fois, la vidéo est assez bien utilisée.
C'est très végétal, il y a des poissons morts.
Mais oui, ça rappelle évidemment les éléments centraux de la pièce, parce que végétal, c'est toutes des branches qui rappelle la cage aussi.
Hein, et le papier peint.
Et le papier peint. Et les poissons, évidemment, et des poissons mal en point.
La scène fait très art plastique, hein, comme on disait à Catherine. C'est vraiment comme une installation qu'on peut voir dans certains artistes contemporains.
Elle est de Sébastien Fernandez et d'Aurélie Bormans, comme ça ils seront cités. Voilà. Et c'est le DJ Doc CLD qui est aux manettes, avec une bande-son qui n'est pas du tout invasive, même si ça commence sur les chapeaux de roue, pour vraiment bien mettre dans cette ambiance un peu dépressive et déprimante. On peut pas dire que c'est un spectacle très joyeux, mais très intéressant.
Mais il y a une pulsation. Donc moi, je me disais tragédie techno. Bon, c'est aller faire un truc techno au théâtre, c'est un peu compliqué, mais ça a l'air d'avoir marché, Nicolas. Toi qui es branché musique.
Oui, tout à fait. Mais c'est pas ça. C'est que c'est toujours la question, comme dans un film, la meilleure bande sonore, c'est celle qu'on n'entend pas, et c'est celle qui soutient en fait le texte et qui soutient le jeu. Et c'est vraiment pas du tout invasif. Et je crois que certains mettent du temps aussi à comprendre que le DJ était là, en fait. Hein, parce qu'on nous parle d'improvisation, mais bon, je dirais voir sans doute qu'une fois ce spectacle, je ne sais pas quelle était la part d'improvisation.
Mais moi, je dirais que ça amène aussi une distance par rapport à cette histoire qui est comme qui est assez réaliste, surtout quand on sait que l'auteur a passé 15 ans au ministère de la Justice et qu'il a été confronté à ces cycles de violences familiales qui se répètent de famille en famille, un petit peu comme le code génétique. Et ça, je trouve que qu'il y a ce décalage-là est vraiment chouette.
Et ça, c'est Georges Denis, faire ce côté un peu poésie. En tout cas, c'était une belle équipée pour ce spectacle de 50 minutes, on peut le dire. Je sens le coup de cœur des trois.
Oui.
Avoir projet HLA.
Avoir jusqu'au 2 avril à 20h30 donc au Théâtre de Poche, chemin du Gymnase, dans le Bois de la Campe, 02 649 17 27 ou www.poche.be.
Alors, de cette famille alcoolique, on va aller de ces prisonniers, des tôlards, dans le monde de la prison, avec un homme debout. Catherine, tu avais vu ça pour nous, donc c'est Jean-Marc Mailly, mis en scène par Jean-Michel Van den Heyden au Théâtre de l'Ancre.
C'est ça. Alors, on reste décidément dans le noir, de chez Noir, avec cette pièce, Un homme debout. Là, c'est complètement une histoire véridique, c'est complètement autobiographique. C'est Jean-Marc Mailly qui a écrit son histoire. Celle d'un enfant, en fait, parce qu'il avait il n'était pas encore majeur quand il a été emprisonné à perpétuité. Donc, il a été enfermé, il a passé 19 ans de sa vie en prison, dont 3 ans en cellule d'isolement, ce qui est vraiment le plus trash. Et voilà, ça fait 6 ans qu'il est sorti, ça fait 6 ans qu'il témoigne dans les IPPJ, qu'il essaie de raconter son histoire pour casser un petit peu le mythe que construisent des séries comme Prison Break, par exemple.
Il est rentré pourquoi en prison ?
Il est rentré parce que il a tué 2 hommes. Donc c'est pas rien, évidemment. La première fois, il a fait un cambriolage et ça s'est mal passé. Le propriétaire a essayé de les arrêter. Il lui a donné un coup sur la tête et le gars y est resté parce que c'était un homme d'un certain âge. Et la deuxième fois, en fait, c'est quand il a essayé de s'enfuir. Donc il a été accusé, condamné une première fois et il a essayé de s'enfuir et il a tué un gendarme. Voilà, bang. Alors, ce qui est très fort, je trouve, par rapport à ça, dans cette pièce, c'est que c'est jamais plaintif, évidemment, parce que ça aurait été indécent quand on connaît son parcours. C'est une parole brute. Il raconte simplement ce que c'est que la prison, pour décourager, sans doute, tous ces jeunes qui rêvent d'une vie de caïd. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, en tout cas, à l'époque, quand moi j'ai vu la pièce, c'était suivi systématiquement d'une rencontre avec lui.
Oui, ici
il reste
aussi
sur scène et voilà, il parle, il répond à toutes les questions.
C'est lui-même qui joue, il est mis en scène, mais c'est lui qui joue sur le plateau.
C'est lui qui joue dans une scénographie très sobre, donc juste un carré blanc au sol. Il va rentrer dans ce carré et il va y rester pendant 1h30, évidemment, pour raconter son histoire. Et au mur, il y a des photos de jeunes de l'artiste Jean-Luc Mormand qui les a retouchés avec des tatouages. Et ça donne aussi une petite touche visuelle très intéressante. Et voilà, donc pendant 1h30, il raconte un petit peu, on pioche des indices sur une enfance pas facile, une enfance, là encore, marquée de violence physique, psychologique, et c'est souvent le cas. Moi, je pense que la plupart des délinquants sont avant tout des victimes, souvent dans leur parcours. Et puis voilà, il raconte les 3 années en cellule d'isolement.
On noche parfois la tête au studio, Catherine. Oui, pas tout à fait, mais il y a des éléments, on va dire, favorables ou à cette délinquance. Enfin, c'est la route de la délinquance.
Oui, c'est ça. Mais c'est surtout le point de cette pièce, c'est de dire, est-ce que c'est vraiment la solution de mettre tous les jeunes en prison ? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux investir dans la prévention de ces jeunes qui sont souvent en décrochage scolaire, qui sont...
C'est un des messages du texte.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, en tout cas, c'est son parcours à lui.
Oui. En tout cas, on le dit dernièrement aussi, il y avait une personne en radio qui affirmait justement que dans ces prisons, il y a une pauvreté énorme, donc il y a très difficile à se reconstruire dans la prison.
Mais tout à fait, il y a la drogue qui circule, donc lui raconte qu'il est tombé là-dedans, qu'il a dû, en plus d'essayer de se former et de se donner une chance pour quand il sortirait, il a dû se désintoxiquer, voilà, c'est un cercle vicieux, on plonge encore plus quand on est en prison. Donc c'est tout ça qu'il raconte, je trouve, avec beaucoup de sobriété et en même temps un charisme et une rage qui font qu'on est vraiment captivé. On l'excuse jamais, évidemment, mais voilà, je trouve que il a réussi à tirer quelque chose de positif d'un parcours ultra noir. C'est pas du tout un comédien, donc il cherche pas du tout à jouer, c'est ça qui est très bon aussi, et en même temps c'est pas non plus du théâtre documentaire parce qu'il y a cette mise en scène qui est très belle.
Donc c'est une parole brute.
C'est une parole brute et c'est clairement, clairement pour moi un coup de cœur encore une fois.
Eh bien alors, entre les alcooliques et les tolards, affection pour ces deux mondes quand même. Allez voir Projet HLA et Un homme debout au Théâtre National qui a les dates jusqu'au...
Moi j'ai jusqu'au 19.
Jusqu'à samedi, Un homme debout, c'est un spectacle qui tourne pas mal, hein, qui va continuer. Et surtout, il y a la rencontre après avec Jean-Marc Mailly.
Et pour les réservations au Théâtre National, www.theatrenational.be, 02 203 53 03.
Et alors Nicolas, tu nous places l'international, paraît-il, une musique rouge.
Oh, du rouge, mais des passions aussi.
La constellation.
Et c'était donc Cyril Mokayesh avec du rouge et des passions. Alors cette chanson est un peu moins tendance communiste comme le titre communiste qu'il a fait de son album qui sort bientôt. Voilà, c'est à découvrir.
Alors, autre lutte finale, au Tanner, le texte de David Wojnarowicz. Alors, David Wojnarowicz était un artiste underground des années 80, mort d'ICIDA, avec toute cette esthétique homo, artiste, libertaire, new-yorkais. Il a écrit un livre et un texte au bord du gouffre qui est mis en scène par une artiste performeuse, Lucille Calmel, que Sophie a vu pour nous hier au Tanner.
C'est ça, et ce livre au bord du gouffre, en fait, c'est vraiment un livre de référence de la littérature gay et de toute la contre-culture nord-américaine. Et donc ce livre traite de l'homosexualité dans l'Amérique des années 80, dans le New York des années 80, et bien sûr de la question du sida, de la mentalité ultra fermée des États-Unis sur cette question, et voilà, toute la politique anti-gay et tout le mouvement qui s'est développé à cette époque pour sensibiliser le public et se défendre de ses libertés aussi. Et c'est un texte qui est un texte fragmenté, qui est à la fois poétique et à la fois très cru. On est plus que dans l'évocation, on est dans le détail d'expériences assez glauques, assez douloureuses et d'expériences sexuelles, de violences aussi. Et voilà, c'est donc tout un univers qui est aussi exprimé sur scène, qui est adapté par Lucille Calmel avec. Une espèce de chaos sur scène, on a beaucoup de lumière, de néon, une utilisation du son en direct. Voilà, elle a utilisé beaucoup de techniques, de nouvelles techniques, de technologies, nouvelles technologies, pardon.
Musique, multimédia.
Voilà, c'est ça. Et donc les comédiens ont des capteurs sur les bras qui vont transformer le son, qui vont projeter des mots sur les murs. Alors voilà, juste pour situer le... Pour voir un peu l'endroit, donc on a la scène des Tanneurs qui est complètement modifiée, les gradins sont inaccessibles, on est sur la scène, tous les spectateurs sont vraiment plongés dans l'ambiance, ils sont tout autour de ce dispositif, on a des grandes bâches en plastique sur les murs sur lesquelles seront projetés des mots, des vidéos et toutes sortes de choses. On a des techniciens avec la régie son sur scène qui vont passer des micros dessus pour faire des bruits un peu électriques. Donc on est vraiment
il y a un théâtre expérimental qui se fait
tout à fait expérimental et très très de proximité aussi. Voilà, on est donc dans ce chaos avec des câbles qui pendent, des néons qui vont être utilisés en permanence, beaucoup de caméras aussi. Voilà, donc les il y a un des comédiens qui va systématiquement prendre cette caméra en main et faire des ultra gros plans de son œil qui est projeté contre le mur ou de sa bouche pendant qu'il est en train de parler.
Donc il y a vraiment une, comme on dit, une poésie du plateau.
Tout à fait. Est-ce qu'on rentre dans la performance, c'est très expérimental.
Est-ce qu'on rentre dans cette poésie? Est-ce qu'on prend des sensations, traversées mentales?
Oui,
ou pas?
on est totalement dans les sensations parce que donc déjà comme on l'a dit, c'est un texte qui est quand même très fort. Et en plus de ça, il est totalement cohérent avec toute cette mise en scène. Donc on est dans la sensation et on va même jusqu'à être choqué par moments parce que y a notamment une scène où l'un des performeurs rampe sur scène et bave une espèce de liquide blanc sans équivoque sur l'autre comédien couché par terre et dans sa bouche. Bon voilà, ça va très loin. C'est, wow. ça va quand même jusqu'à un érotisme.
Le sperme sur scène, c'est pas l'actionnisme viennois où là c'est du live et du vrai. Oui, c'est vrai que ça peut déranger.
Voilà, c'est juste, il y a de l'organique, il y a de la nudité, il y a des mots forts, des témoignages. sans équivoque à nouveau.
Ça fait partie de ce texte dur hein, qui raconte son expérience homo dans les années 80. C'était pas très joyeux hein, comme liberté. Bon, aujourd'hui, c'est un peu mieux, mais bon.
Non, mais voilà, c'est ça. Donc, il parle finalement de ses expériences avec des inconnus et puis aussi des témoignages assez difficiles. Et on sent toujours une espèce de désœuvrement, de fragilité aussi et d'impuissance peut-être par rapport à surtout la question du sida, parce qu'on revient aussi souvent sur le thème de la mort.
Et le texte est dit ou mis en espace par Lucie Gourmet ?
Alors, il y a de tout. Il y a vraiment un texte qui est dit, qui est joué. Il y a du texte qui est lu, à même le livre par moment. Et alors, beaucoup de textes projetés un peu partout sur les murs, sur les télévisions, parce qu'il y a aussi des télés sur le plateau. Voilà, ce sont...
Toute une installation laboratoire.
Et surtout, donc, par rapport à ces capteurs dont je parlais tout à l'heure, ces capteurs sensoriels, des mots qui vont se mélanger, des lettres qui se superposent. Et donc, on est un peu dans un chaos, finalement, qui peut très bien exprimer le sentiment ou la situation vécue par un homosexuel à cette époque-là, dans cette contrée géographique.
Je trouve que le texte va très bien à Lucile Calmel, hein, qui est une artiste performeuse qui circule beaucoup dans des festivals numériques, on va dire, ou ici dans Bruxelles. Elle est très active dans Facebook, hein, donc Lucile Calmel essaie de la choper. Et elle a justement cette écriture, cette typographie vivante où elle met les lettres et que ça s'entremêle. Et voilà. Sur scène, elle est où ?
Alors, sur scène, c'est-à-dire que en fonction de où le spectateur arrive à s'asseoir, il peut voir une partie de la scène ou tout. Et moi, j'ai pas tout vu. Donc, je pense qu'elle devait être tout à l'arrière parce qu'il y avait toute une équipe en vraie régie, juste derrière le spectateur. Mais c'est assez confus comme situation scénique parce que, voilà, on peut très bien se retrouver dans un coin où on ne verra pas la même chose que le spectateur qui est en face parce que lui, il n'a pas accès à l'écran, ce genre de choses.
Alors, pied de nez à Lucile, n'ayez pas peur de vous déplacer, on est dans le labo.
Mais ça fait partie de l'interactivité aussi qu'impose ce genre de performance.
Moi, je l'avais vu dans une petite salle de la Bellone en tout premier projet et c'est vrai qu'on pouvait se déplacer parce qu'à un moment donné, l'œil est pris constamment dans un univers. Donc voilà, alors que des bonnes pièces aujourd'hui au bord du gouffre, à voir au Tanneur, Lucile Calmel.
C'est à voir au Tanneur jusqu'au 19 mars et pour les informations c'est sur letanneur.be ou au 02 502 37 43.
Alors de bord du gouffre on va du côté de Fabre a fait quelque chose de plus soft, lui il est parti voir Prométhée hein, ce gars qui a pris le feu aux dieux et qui l'a donné aux hommes et mal lui en a pris, donc voilà il reprend un peu ce mythe et il en fait quelque chose de contemporain un peu à la Fabre, en tout cas il a réécrit le texte avec un auteur né néerlandophone Oyslager ou quelque chose comme ça, pas vu dans le milieu francophone, c'est dire la barrière. Et donc voilà, reste que Fabre a des... moi, ce que j'ai aimé, je l'avais vu en verse. Fabre a de magnifiques images. Hein, magnifique, c'est un plasticien à la base, plasticien chorégraphe, mais que le texte, bon, on sent... il est un peu lourd. Bon, il est en anglais. Moi, c'est simple, j'ai évité le texte. Je me suis concentrée sur la beauté des images et une bande-son de fou. Donc voilà, il y a un prologue juste pour situer la scène. Il y a un prologue où il y a une espèce de sumo encordé sur sa chaise. De part et d'autre, il y a deux micros. Deux hommes en costard vont se rappliquer. L'un va faire toute une tirade sur les héros qu'on a besoin. On a besoin de héros et il le dit comme une litanie. Et dans l'autre micro, l'autre n'arrête pas de faire des fuck-off à Jung, Freud, Rogers, à tous les psychologues pour juste un peu remettre les pendules à l'heure, on va dire. Et après, on plonge carrément dans le monde de Prométhée. Ce qui est impressionnant, c'est que Prométhée est enchaîné. Donc, il est sur deux cordes comme ça, comme un Christ enchaîné. Tout le long de la pièce, il ne dira rien, juste à la fin. Et alors déjà là, il y a une performance. Autour de lui, il y a une dizaine de performeurs qui déambulent. Tantôt, on a l'impression qu'ils sont des alchimistes. Tantôt, ils sont un peu dévoilés avec quelques jarretières et tout, qui sont à un moment donné sur le désir. Fabre a voulu faire justement ce côté de héros ou de ego jouer sur l'orgueil. On ne le sent pas très bien. Il y a juste des belles images et surtout l'utilisation ici, pas du feu, mais du sable qui est très
présent. Alors ça, c'est une chose très rare au théâtre, ça donne des images magnifiques. Eux vont jouer un peu, voilà, il y a quelques images métaphores sur le feu. Le gars, c'est du Fabre classique, le gars va prendre son sexe pour un chalumeau. À un moment donné, il y a deux, trois gars, moi ça m'a fait rire, ils essayent d'allumer un feu sur le vagin d'une femme. Bon, mais à part ça, ça va pas plus loin, mais ça reste des images magnifiques parce qu'il y a des extincteurs, il y a des fumigènes, il y a des couleurs magnifiques. Derrière l'écran, il y a un soleil, tantôt c'est noir, tantôt c'est sombre, tantôt c'est très feu. Donc il y a vraiment un bouquet d'images lumineuses au texte, bof. Mais bon, voilà, moi j'ai trouvé ça en coup de cœur parce que c'est passé comme du petit lait et une très bonne bande-son. Fabre, Prométhée, c'est jusque samedi au Kai Theater. Et il nous reste quelques minutes pour parler malgré tout d'un autre coup de cœur. Décidément, c'est le printemps, il n'y a que des coups de cœur. La Finta Giardiniera, qui est un opéra de Mozart rarement joué, on va dire. Et là, c'est une reprise des couples Karl Ernst Hermann et des Ursel Hermann, qui est un couple d'Allemands, je pense, qui est un couple d'Allemands assez âgés et qui font des mises en scène tout le temps très sobres. Moi, j'ai toujours le souvenir du noir et blanc chez eux, je ne sais pas pourquoi. Et ici, c'est une légèreté, c'est une mise en scène très sobre et de bon goût, un opéra, un orchestre très réduit pour ce Mozart, et ça raconte une histoire de fou, tout le monde aime tout le monde, l'un est déguisé, il y a toujours quelqu'un qui se déguise pour venger le mari qui l'a laissé tomber, et tout cela s'enchaîne très bien.
Je crois que c'est un spectacle qu'ils avaient créé dans les années 80 déjà, et en tout cas ils avaient déjà abordé cet opéra de Mozart, et ils reviennent avec ça parce que c'est vraiment un historique de leur création.
Répertoire, oui, c'est sûr. Ça. Et on sent les années 80, on sent l'ambiance de Peter Stein, ils ont travaillé avec Peter Stein, ils ont à la base, et c'est ça qui se voit, ils ont un travail de théâtre. Et les chanteurs comédiens ont une aisance sur ce plateau, qui fonctionne très bien. D'ailleurs, on va essayer en douce d'entendre une musique. Est-ce qu'on entend ? Voilà, du Mozart, évidemment. Ça, c'est la chanteuse excentrique qui vient chercher un mari. Mais le mari, figurez-vous, il a laissé tomber une autre bonne femme et qui est à sa poursuite. Tout le monde se poursuit, tout le monde s'aime et on est dans cette folie amoureuse. Je discutais avec des jeunes à l'entracte. Ils disent, bah oui, l'amour est éternel et le schmilblick de fou. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit aussi à un moment donné cette folie. À un moment donné, tout devient clair-obscur. On est dans un château qui n'existe pas. En tout cas, ce sont dans une forêt des arbres où tout le monde se déplace. Il y a un vrai jeu de comédien, une orchestration très délicate et des voix tout égales. Il y a vraiment un beau travail choral et une très belle mise en scène. Un opéra de 4 heures, n'ayez pas peur, il y a deux entractes, ça se regarde avec légèreté. Et à l'opéra, je vous le disais, les pièces sont les prix sont de 10 à 100 euros. Il y a vraiment moyen de se trouver de bonnes places et ça se regarde très facilement. La Finta Jardinière, la fausse jardinière évidemment, qui se glisse dans cette maison, à voir à la Monnaie jusqu'au 30 mars. Jusqu'au 30 mars à la Monnaie, il y a une diffusion, une captation pour Musique 3 le 4 avril, le 3 avril, mais je vous conseille vraiment d'aller voir cette pièce. C'est une belle légèreté pour le printemps. Ainsi se termine Radio Campus. Que des coups de cœur cette semaine. Enfin, vous retrouverez Catherine la semaine prochaine pour une nouvelle conspiration des planches. Bonsoir à tous.
Bonsoir. Oh,